Et c'est un article de Pauline Gravel que vous allez partager avec nous, Isabelle Falardeau.
Oui, exactement, qui est paru dans Le Devoir le 21 juillet dernier. Le mystère derrière la Madeleine de Proust, enfin expliqué. Et comme je le disais, ce sont des neuroscientifiques français qui se sont penchés sur la puissance particulière de certains souvenirs olfactifs. Et on en parlait la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Pour Marcel Proust, le simple arôme d'une madeleine trempée dans une infusion de thé faisait ressurgir les souvenirs heureux de son enfance. Enfance pendant laquelle une tante lui servait ce petit goûter réconfortant les dimanches matins. Et on a chacun, on le disait, nos petites odeurs qui nous font revenir en enfance aussi. Et donc, ces neuroscientifiques se sont appliqués à élucider les réminiscences très particulières qui sont induites par ces expériences olfactives et que l'écrivain décrit, pour ceux qui sont curieux, là, c'est dans son roman « Du côté de chez Swann », qui est le premier volume dans la recherche du temps perdu. Et ces observations-là sont parues dans la revue PLOS Biology le 14 juillet dernier. Donc, dans un premier temps, l'équipe de scientifiques du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, a demandé à des adultes de décrire leurs plus anciens souvenirs olfactifs. Et les réponses qu'on a recueillies ont indiqué que ce souvenir particulier, qui remontait à leur petite enfance, soit avant l'âge de 10 ans, était associé à une odeur plaisante, mais aussi que le contexte dans lequel on avait été en contact avec l'odeur était très agréable, voire joyeux. Et que, en général, c'est une expérience qui s'était répétée plus de 5 fois au cours de l'enfance. Donc, pas quelque chose qui s'est produit juste une fois, mais plusieurs fois. Ensuite, les chercheurs, se sont inspirés de ces informations pour concevoir un modèle expérimental pour reproduire fidèlement chez des souris ce vécu de l'enfance. Moi, j'ai trouvé ça très curieux de voir comment on peut mesurer les souvenirs d'enfance chez les souris. Mais vous allez voir, c'est très, très scientifique. Donc, on a présenté à 5 reprises à de jeunes souris une odeur qu'elles aimaient dans une grande cage contenant des jeux, de la nourriture et des congénères, donc ce qui est l'équivalent là, d'un moment plaisant pour les souris. Et ils ont confirmé que c'était des souris, que les souris appréciaient l'odeur et le contexte en mesurant le temps qu'elles passaient à proximité de l'odeur et en enregistrant les vocalises qu'elles émettent lorsqu'elles sont en jeu. Donc, on imagine que ces chercheurs-là sont des spécialistes des vocalises de souris.
On se croirait dans un film d'animation.
Oui, vraiment. Et ils ont ensuite observé qu'à l'âge adulte, ces mêmes souris manifestaient une préférence très claire pour cette odeur. Elles passaient plus de temps à explorer cette odeur particulière que d'autres qui leur étaient inconnues. Et, encore plus important, elles ne s'en désintéressaient pas, même quand on leur présentait la même odeur à plusieurs reprises, alors que dans le cas d'autres odeurs, elles finissaient par les négliger après s'y être accoutumées. Donc, il y avait une nette différence entre les deux. Là, vous allez me dire, oui, mais là, on s'était assuré que c'était des odeurs agréables. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles ont gardé cet engouement-là. Mais non, les souris démontraient une nette préférence pour l'odeur de l'enfance à la condition que celle-ci leur ait été présentée dans un environnement très positif. Parce qu'on a quand même eu un groupe témoin les mêmes souris étaient exposées à des odeurs dans une cage standard et alors elles n'avaient pas gardé de souvenirs à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment une association, comme chez l'humain, avec un contexte plaisant. C'est très important pour que cette odeur-là continue à nous procurer des beaux souvenirs.
Et aussi une fréquence.
Voilà. Donc, on a observé la même chose que chez les souris. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça arrive? Alors, les scientifiques ont ensuite cherché à identifier les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans cette mémoire olfactive de l'enfance, qui perdure longtemps, qui suscite souvent une grande nostalgie plus tard dans la vie. Et donc, c'est là qu'ils ont mis en évidence le rôle central de certains neurones du bulbe olfactif. Ça, le bulbe olfactif, si vous êtes comme moi, vous ne saviez pas nécessairement que ça existait, ni chez où, mais c'est vraiment à la base du cerveau, donc la partie du cerveau qui est la plus proche du nez. Il y a une espèce de petit bulbe là, qui part du cerveau et qui vient capter probablement les odeurs.
Et qu'on appelle bulbe.
Le bulbe olfactif.
On a un petit peu de friture sur la ligne, là, Isabelle. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans votre garde-robe. Là.
Non, je suis sortie du garde-robe depuis quelques temps. Est-ce que c'est mieux? J'ai peut-être à côté mon bras sur le bureau et ça faisait peut-être...
Oui, continuez.
Alors, on a montré donc que le bulbe olfactif, donc comme je le disais, c'est celui qui reçoit l'information olfactive qui est captée par les récepteurs du nez. Et donc, on a montré que ces neurones portent la mémoire de l'odeur si on inhibe leur activité au moment d'être exposé à l'odeur, les souris l'oublient une fois à l'âge adulte. Donc, on sait que c'est vraiment les neurones du bulbe olfactif qui sont impliqués dans le processus. C'est les neurones qui sont dotés d'une grande plasticité et qui apparaissent après la naissance de la souris. Ça, c'est important. La plupart des neurones du cerveau, chez la souris comme chez l'humain, sont présents avant la naissance. Notre cerveau, on le sait, est entièrement formé avant la naissance. Mais ces neurones-là, c'est l'exception. Ils apparaissent le jour de la naissance et encore un peu durant la petite enfance. Donc, chez l'homme, chez la souris, ces neurones-là olfactifs continuent à apparaître pendant la petite enfance. Et grâce à des vecteurs viraux, donc là, évidemment, on leur fait confiance là, que c'est ce qui fonctionne, ils ont réussi à reconnaître spécifiquement ces neurones-là qu'on appelle les neurones néonataux. Et donc, ils ont pu repérer les neurones au fur et à mesure de leur apparition dans le bulbe olfactif. Et à l'aide de marqueurs protéiques, ils ont aussi pu voir que ces neurones-là s'activent uniquement quand les souris étaient exposées à l'odeur en question. Donc, c'est vraiment l'activation de ces neurones-là qui induit la production de la protéine de leur marqueur. C'est comme ça qu'ils ont vraiment pu observer que ce sont les neurones qui sont impliqués dans ce souvenir heureux.
Bon, là, on vous a perdu carrément. Là, les deux dernières phrases, on les a entendues comme si vous étiez dans un sous-marin en perdition.
Ouais, ça doit être ma connexion.
Alors, quand vous parlez comme ça, ça va.
OK, j'ai pas bougé.
Peut-être reprendre les deux dernières phrases, s'il vous plaît.
Oui, donc ben, on parlait de... Là, est-ce que ça va... vous m'entendez toujours bien?
Là, c'est clair.
OK, donc on parlait des marqueurs protéiques qui ont été utilisés pour voir quand les neurones s'activent. Et ils s'activaient uniquement quand les souris étaient exposées à l'odeur. Donc, c'est ça qui a permis aux chercheurs vraiment là, de suivre l'activation des neurones et de les identifier comme étant les responsables de tout le processus. Et ils ont aussi remarqué que chez les jeunes souris, les souris jeunes adultes, le circuit de la récompense, ce fameux processus là, qui fait que certaines actions qui sont liées à notre survie sont plaisantes pour qu'on les reproduise, entre autres impliquant la dopamine. Donc, ce circuit de la récompense participait lui aussi à la réminiscence des souvenirs olfactifs qui datent de la petite enfance, parce que ce circuit-là s'active quand on présente l'odeur de l'enfance aux souris adultes. Ensuite, ils ont regardé les souris plus âgées et ils se sont aperçus qu'elles ne se souvenaient plus de l'odeur, sauf si elles y avaient été réexposées quelquefois au cours de leur vie adulte. Donc, il y a une différence entre les jeunes adultes et les adultes plus âgés. Et sans la réexposition, ben, elles avaient oublié l'odeur et donc il n'y avait plus de préférence pour l'effluve particulière. Là, ils ne disent pas si on pense que c'est la même chose chez l'adulte. J'ai l'impression que ça dure plus longtemps. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à un âge plus avancé, la participation des neurones néonataux du bulbe olfactif et du circuit de la récompense, tout ça s'est estompé au profit du circuit des émotions qui est dans notre système limbique. Et alors, dans ce cas-là, le souvenir de l'enfance est encore bien maintenu, mais c'est vraiment l'intervention du système limbique qui le maintient, c'est plus les neurones olfactifs. Et ça pourrait expliquer pourquoi les odeurs de notre enfance, quand on est plus âgé, sont aussi très nostalgiques, émotionnellement positives. Donc, il y a plus d'émotions qui sont impliquées encore quand on vieillit.
Ah, les émotions!
En conclusion de l'article, on nous dit que c'est ça. Au niveau anatomique, le système olfactif est très étroitement connecté au système de la récompense et aussi au système limbique. Mais la connectivité avec le circuit de la récompense est plus grande chez le jeune adulte, alors qu'avec l'âge, c'est plutôt la connectivité avec le système limbique, les émotions qui s'accroît. Et Gilles Dejoux, donc le doctorant principalement impliqué dans cette étude, a appelé ça l'effet Proust.
L'effet Proust, envie de lire Marcel Proust. Est-ce que vous avez déjà lu À la recherche du temps perdu? Il faut en avoir du temps à perdre, j'allais dire à perdre.
J'ai lu À la recherche de chez Swann, mais je pense que je me suis rendue au tome 2.
Oui, moi c'est un projet.
Mais ça m'a donné le goût d'y retourner, oui.
À chaque été, je me dis, cet été, je lis au complet À la recherche du temps perdu. J'ai lu le premier tome aussi du côté de chez Swann.
Voilà.
Peut-être que ça va s'avérer parce que j'ai un beau cousin, c'est-à-dire le... le chum de, de ma cousine qui m'a prêté à la recherche du temps perdu dans la Pléiade avec ses belles pages.
Ben là, ça donne le goût encore plus. Oui. Ça sent bon aussi.
Ah oui. Alors, si c'est pas cet été, ça va être un jour. J'allais dire quand on a du temps perdu, parce que c'est un jeu de mots avec le titre de « À la recherche du temps perdu », mais c'est loin d'être du temps perdu de lire du Proust. Des grandes pages sans points, hein? Presque pas de virgule.
Ah oui, oui.
Oui, oui, il faut juste se laisser porter par le rythme. C'est une œuvre d'art, en tout cas, pour ce qui concerne du côté de chez soi, mais pour le reste aussi, selon ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu là-dessus. Bien, merci beaucoup, Isabelle, pour
avec plaisir.
Ce partage. Et vous restez avec nous?
Oui, bien sûr.